Winnet en direct
avec JC.
On a
et Patricia.
Juste à se connecter avec notre cœur et c'est tout.
Radio X.
Notre prochaine invitée, je me souviens, ça fait quelques fois qu'on lui parle. En tout cas, que moi, je lui parle. Peut-être, Pat, c'est dans l'autre mouture aussi. Mais toi aussi, tu étais là la dernière fois qu'on s'est parlé. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est un sujet sensible dont on va parler. On va parler de nos enfants. Et c'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un de réservé. Mais c'est quelqu'un qui met toujours le doigt sur la bonne affaire et qui soulève toujours la couverture à bonne place. Parce que oui, on est bon au Québec, là, mais il y a beaucoup de choses qui devraient être améliorées, surtout quand on pense à nos enfants. Nos enfants, c'est pas juste nos enfants. C'est sûr que c'est le centre de notre vie, mais c'est le futur. C'est ce qu'on laisse à la postérité. Et ces enfants-là doivent réussir à s'épanouir d'une façon ou d'une autre. Puis des fois, on a l'impression que c'est un modèle qui n'est pas toujours conçu pour favoriser ce développement-là. Donc, j'arrête de parler puis j'ouvre son micro parce que j'aime ça lui parler. Il est pédiatre au CHU Sainte-Justine, professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Vous l'avez peut-être déjà reconnu. Docteur Jean-François Chicoine qui est là. Docteur Chicoine, bien le bonjour. Vous êtes le bienvenu.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Je vais commencer avec une question, disons, un long shot, comme on dit. On s'était parlé dans le temps de la pandémie et vous aviez soulevé d'énormes inquiétudes concernant tout ce qui s'est passé. Maintenant, on se dit 3 ans plus tard, comment vont les enfants de la pandémie?
Les enfants de la pandémie, en fait, ceux qui sont nés pendant la pandémie, ben, ils sont assez bien. J'en vois plusieurs, ils sont assez en sécurité affective parce qu'ils ont été, je dirais, portés puis collés sur leurs parents pendant leur première année de vie. Donc, ils sont assez forts, sont assez sécurisés. C'est effectivement très, très intéressant de voir ça en clinique. Là, j'en vois beaucoup là, à quel point ceux-là ont bien évolué.
Je parlais pas de ceux-là, mais c'est intéressant quand même comme analyse.
Je sais que vous savez pas de ceux-là. C'est pour ça que je parle plus que vous.
C'est
autant
très
que
bon.
Vous, merci.
Très bon.
Mais j'essaie de commencer par une nouvelle intéressante
qui montre
à quel point l'apaisement, la proximité physique fait que on est plus solide après affectivement, puis on a plus envie d'explorer. C'est des enfants qui vont bien. Ceux qui vont moins bien sont ceux, justement, qui ont été privés d'école, de jeux, de loisirs, de connexion avec leurs amis, avec leur famille, et qui ont vécu avec leurs parents l'enfermement. Alors, il y en a qui se portent bien parce que leurs parents ont commencé à sortir après la pandémie, à faire du sport, à aller dans la nature, à faire des trucs. Puis ceux qui vont moins bien sont aussi ceux dont les parents sont restés, je dirais, à pause, en enfermement, beaucoup chez eux, beaucoup avec les appareils électroniques, les réseaux sociaux, les accès à Netflix, à Crave, à tout ce qu'on connaît, et qui sortent plus, qui voient moins d'amis, qui font moins de barbecue, qui vont pas dans des musées, qui vont pas dans des expositions, qui vont pas dans la nature, et qui restent très enfermé. Je dirais qu'on a une génération, moi, en clinique, avec ma psychoéducatrice, notre infirmière, notre travailleuse sociale, chaque jour, je me bats pour un peu de délinquance, je dirais, parce que j'y trouve assez, des fois, ennuyeux, pris à la maison, puis ils vivent beaucoup par vie interposée, par vie virtuelle, par vie américaine, dans le sens états-unien du terme. Alors, c'est très, très, très particulier. Alors,
mais je pense que, vous stiquez sur américain, mais je pense que c'est très occidental. En Europe, je ne suis pas certain que ça va mieux tant que ça non plus.
Non, en Europe, ça ne va pas mieux au niveau des réseaux sociaux puis au niveau de l'enfermement. Sauf que les Européens sont... Je travaille aussi en France beaucoup. Les familles françaises, elles sont différentes des Québécoises. Elles ont leurs défauts, leurs qualités. Les familles québécoises sont traditionnellement assez sécurisantes, assez enveloppantes. On aime nos enfants, etc. Les Français aussi, mais ils sont plus provocants, les Français. Ils sont plus dans la survie. Ils sont plus en train de les envoyer explorer dans une autre ville d'or. Ils crient plus aussi. Donc, ça les amène à de l'exploration et à de l'aventure plus rapidement. Ils sont pris, je suis d'accord avec vous, avec les mêmes problématiques qu'avec les réseaux sociaux, avec les écrans, Sauf que ben, leurs maisons sont moins grandes, puis ils sont obligés de sortir tous les jours acheter leur pain. Il y a ce côté confortable de l'Amérique du Nord qui nous nuit en ce moment, le côté confort.
Ce que j'aime dans votre analyse depuis le début, c'est que vous ramenez toujours ça, en fait, j'allais dire souvent, mais toujours ça aux parents. Puis moi, je trouve que ça fait plein de sens, mais c'est l'environnement immédiat. Et quand on aborde ces sujets-là, je trouve, dans l'actualité, dans les discussions sur les panels, je trouve qu'on... On focus beaucoup sur l'enfant. L'enfant et l'école. L'école doit faire ci, là, tu sais, comme le retrait des écrans, des téléphones dans les écoles. Moi, je peux être pour ou contre, mais si l'enfant revient à la maison et que le téléphone est dans ses mains de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 9 heures le soir, on n'améliore pas grand-chose. Le parent est au centre de tout ça tout le temps, là.
Oui. Les parents, ils sont un petit peu dépassés par les événements. Depuis la pandémie, puis en raison de la complexification de la vie, là, l'insécurité en termes d'habitation, de logement, l'insécurité en termes d'épicerie, le coût de différentes choses, le nombre de séparations parentales, ils sont souvent plus insécurisés, moins équipés, moins entourés aussi. Les services de santé, de proximité, je dis bien... Là, on veut réinventer les CLSC, mais tout ce qui est proche d'eux pour les aider dans la vie de tous les jours n'est pas toujours là. Les organismes communautaires, on le voit, ils ont fait la grève, ils sont encore dedans. Les maisons de la famille, les maisons des adolescents, tous ces services-là dont ils pourraient profiter se sont des fois un peu égrenés. Ils ont de la difficulté des fois à se conforter, à se sentir vraiment parents au centre de leur histoire. Et puis, on sent qu'ils sont pas bien, des fois. Les parents, 70% selon les dernières enquêtes québécoises des parents se sentent un peu dépassés en termes de temps et puis d'opportunités. Et puis, parce qu'ils sont comme ça, je trouve que c'est bien, on le ressent, mais on n'ose pas leur dire comment ils pourraient faire autrement ou faire mieux. Le mot, on n'a pas à culpabiliser les parents, on l'entend souvent. Moi, je pense qu'on n'a pas à précipiter les parents dans la honte. On n'a pas à leur reprocher ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont devenus, mais on peut les culpabiliser. Je ne connais pas votre vie, M. Ouellet, mais moi, si on ne m'avait pas culpabilisé, je ne serais pas devenu un homme meilleur. La culpabilité, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif.
C'est ce que j'allais dire, parce que culpabiliser, c'est parce que ça a évidemment une connotation très négative, mais on pourrait aussi dire leur donner la réalité.
C'est de la guidance, c'est donner la réalité. Et ces parents-là, il faut les amener vers quelque chose, vers cette force-là.
Mais juste avant, pour compléter l'analyse, est-ce qu'il y a quelque chose de très québécois? Tu sais, tantôt, on parlait d'influence des États-Unis, de l'Europe, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de très québécois dans ce sentiment-là que le modèle ou quelqu'un va s'en occuper? Est-ce qu'on s'est déchargé comme société en se disant bien, l'école va prendre le relais, il va avoir un psychologue qui va s'en occuper, l'État va s'occuper de nous autres? Est-ce qu'il y a un réflexe peut-être principalement québécois là-dedans?
Il y a quelque chose, pas nécessairement de québécois, mais qui est un peu le contrepoids d'une société qui s'est gâtée en termes de programmes sociaux. Des programmes sociaux, il n'y en aura jamais assez pour moi, sauf qu'on a tendance parfois à croire que tout va venir à l'extérieur de nous et qu'on n'est pas au centre de la question.
C'est ça.
Et que, et puis, on peut le voir avec différentes choses. Par exemple, puis il y a des questions en médecine qui se posent maintenant. Jusqu'à quel point on doit payer pour les soins de tel cancer qu'on aurait pu prévenir si la personne avait arrêté de fumer?
Ouais.
Jusqu'à quel point... Alors, tout ça, toute cette responsabilité-là de l'individu qui est mise de l'avant en Chine, par exemple. En Chine, par exemple, un chômeur est quelqu'un de malade pour eux autres. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, donc il faut qu'il... Alors, c'est l'exemple contraire. C'est l'exemple antidémocratique contraire, je dirais. Mais il faut comprendre qu'on est aussi au centre de la question. En ce moment, je suis assez fasciné par les difficultés, les méshabitudes de vie des enfants et des familles. C'est-à-dire que si on avait de meilleures habitudes de vie, ben le système de santé arrêterait aussi d'être en souffrance.
Ouais.
Oui, les services sont pas là. Oui, c'est mal organisé. Oui, il y avait des lois épouvantables. Oui, ça va mal. Mais pourquoi on n'est pas des agents de changement individuellement, comme personne ou en famille?
Parce qu'on paye de l'impôt.
Ouais, ben non, mais c'est parce qu'on n'est pas capable de faire de la prévention.
La famille, les gens ne dorment pas assez, les gens ne font pas assez d'exercice, les gens sont plus sédentaires, les gens ne vont pas assez dehors, les gens ne lisent pas assez, les gens ne consomment pas suffisamment de culture, et les gens ne connectent pas, et je dis pas communiquer, là, je dis connecter ensemble dans des rencontres, etc. C'est très, très problématique de voir à quel point les habitudes de vie des sociétés relativement bien nanties comme la nôtre se sont dégradées. Et puis, évidemment, les écrans prennent une place énorme. Par exemple, dès l'âge de 14 ans, au Québec, les écrans, en termes d'heures, et là, je ne parle pas de contenu, ce qui est aussi important que le nombre d'heures, en termes d'heures, c'est 6 heures en moyenne.
Ah oui, c'est bien trop, là.
C'est ça, c'est
mais on dirait
trop.
Qu'on a continuellement la même conversation depuis les dernières années,
oui.
Puis sans
oui.
vraiment de changement.
Les parents ont une forme d'alcoolisme face à ça. Une sorte de... Délinquance, c'est un mot trop grand. Une sorte de nonchalance.
Ouais.
Une sorte de...
On est dans le jus. Râler. Tu sais, mais vous dire, ben, franchement, on est dans le jus. Là, je pensais juste, moi, là, quand vous me disiez tout ce que je devais faire, là, voilà, exactement 15 secondes, j'étais brûlée.
Tu sais, il
faut que je chante, faut que je m'entraîne, faut que je mange bien.
Ouais,
après ça, il faut que je fasse le ménage de ma maison.
C'est toutes des choses que vous faisiez petite fille ou que vos parents avaient anticipées pour vous. Alors, actuellement, on n'est plus capable de le faire. Pourquoi? Les réseaux sociaux, surtout, et les écrans, les jeux vidéo... sont rentrés d'une manière transversale dans les familles. On a laissé rentrer des violeurs, des directeurs de casino, des gens qui voulaient faire de l'argent et contrôler l'esprit de nos familles, dans les repas, dans les chambres à coucher. On les a laissés rentrer comme... C'est vraiment Alien. La comparaison est même pas exagérée. Il y a un parasite qui est rentré dans les familles,
ouais.
qui grossit, qui prend du temps, qui consomme la vie, qui augmente les conflits familiaux, qui augmente les conflits entre enfants et parents. Et c'est rentré d'une manière subliminale. Bon, les réseaux sociaux sont arrivés vers la fin des années 2000, donc 2007, 2008, 2009, 2010, avec la portabilité, le iPhone, les tablettes. Et vers 2015, les études commencent à montrer que l'anxiété... la dépression, l'agressivité, les troubles de l'image corporelle, la solitude, tous les échecs scolaires, les échecs familiaux commencent à augmenter. Et là, on s'aperçoit, enfin, moi, ça fait des années que je milite pour ça, vous savez, on en avait déjà parlé, on s'aperçoit enfin que les parents... les citoyens, les individus ne peuvent plus y arriver seuls. On a besoin de lois maintenant. On a besoin de lois pour interdire, réguler.
C'est triste d'arriver là, non? Parce que moi, j'ai jamais souhaité plus de lois. Là, mais là, on me dit, ouais, mais si on veut que les enfants, si on veut protéger nos enfants, il faut des lois pour forcer les parents à enlever le téléphone des enfants.
Mais
il y a quelque chose de décourageant.
On peut pas lutter. C'est le docteur qui parle. Là. On peut pas lutter contre... les travers de la nature humaine, je vous dirais.
Ouais.
Il faut essayer de les célébrer quand ça va bien, puis d'échanger un peu, d'aller au-delà des... je dirais dans une sorte de réduction des méfaits, mais pour plusieurs choses, il faut parfois mettre des lois, pas pour 2/3 de la population, je vous dirais, mais pour 1/3 de la population, il faut arriver avec des lois pour protéger les personnes les plus vulnérables. Par exemple, avec ce que je viens de vous dire, évidemment, les mères, les mamans monoparentales, les défavorisés au niveau économique, les immigrants récents, les personnes avec des handicaps ou des troubles de développement sont beaucoup plus susceptibles de se faire happer par l'ogre des réseaux sociaux.
Il y a des gens plus vulnérables. Hey, je vous enlève des écrans 2 secondes, Dr Chicoine, OK? Parce qu'il y a tellement de phénomènes. Là, on pourrait faire un podcast de 8 heures.
Oui, on peut sortir du rendez-vous la semaine prochaine.
Écoute, parce qu'il y a l'autre angle, puis je m'interroge beaucoup. À un moment donné, tu sais, il y a eu une espèce de buzz. Je sais pas si ça vient des réseaux sociaux. On voulait tellement devenir un bon parent qu'on a dit l'enfant devient roi. Donc, il peut cracher à temps, puis je lui montre... ça va moins bien aujourd'hui.
Ouais, l'histoire des crises dans les écoles, là, où on n'intervient pas. Là.
Oui, et on a décidé qu'on les mettait dans de la ouate, OK, constamment, et qu'ils pouvaient nous manquer de respect, que c'est nous, dans le comportement, l'adulte, qui devait s'ajuster constamment à l'enfant, OK? Au lieu de mettre des balises et des règles, de l'encadrer, puis à un moment donné, wow, t'as dépassé les limites. Je m'interroge sur ces enfants, OK, qui ont vécu ce buzz-là d'être, entre guillemets, supposément un meilleur parent. Il arrive quoi de ces enfants-là? Ils sont où? Ils vont-tu bien? Ils s'en sortent-tu? Sont-tu mal élevés?
Bon, ils sont comment? Alors là, je vais vous faire toute une réponse. On est parti d'une société, surtout en Europe, ou même ici, de père fouettard, comme on disait, c'est-à-dire une société qui était un peu castrante, qui pouvait être même violente.
On battait les enfants, on va le dire.
On les frappait. Ensuite, on est allé tranquillement vers quelque chose d'autre, et puis, je vous suis, on est allé vers un excès contraire. C'est-à-dire que les enfants ont besoin d'un cadre, ont besoin de discipline, ont besoin d'autorité, routine, d'autorisation. Ils en ont besoin. Et ça ne veut pas dire que ce cadre-là doit être humiliant ou punitif. Tout ce que ça voulait dire, c'est qu'il faut écouter d'abord les émotions et ensuite intervenir. Pas s'empêcher d'intervenir sous prétexte que ce sont des enfants. Ils sont pas... ils ont la même dignité que nous, ce sont des enfants, mais ce sont de petites personnes, donc il y a un rapport hiérarchique, j'emploie le mot, qui peut et qui doit s'instaurer entre l'adulte et l'enfant. Et ça ne veut pas dire que ce rapport-là doit être punitif. Par exemple, moi, mes patients, puis quand je vais dans les écoles et tout, j'aime pas les punitions, j'aime pas les retraits, j'aime pas les récompenses non plus. C'est la même chose. Les carottes et les bâtons sont nuisibles. Il faut aller écouter les émotions, cadrer et essayer d'organiser les rapports avec l'enfant et sa maison et son école et les autres d'une manière harmonieuse ensuite, et ne pas hésiter à intervenir, parce qu'effectivement, l'enfant va prendre de plus en plus de place et se sentir de plus en plus insécure, parce qu'un enfant qui n'est pas discipliné est un enfant insécurisé. Et je vous dirais même, un enfant négligé, parce que comme il ne connaît pas ses limites, il devient plus anxieux, des fois plus agressif et des fois même dépressif parce qu'il se dit, mon Dieu, est-ce qu'on m'aime vraiment? Je viens de faire quelque chose d'épouvantable et personne ne s'occupe de moi pour m'arrêter de fonctionner. Ça, c'est un premier élément. En même temps, ça, c'est sûr que c'est devenu, c'est devenu immensément grand comme problème. Le psychiatre Boris Cyrulnik en France a une jolie expression pour appeler ces enfants-là. Il les appelle des nourrissons géants. C'est joli, hein? Je savais que ça vous plairait. Ah, moi, oui, j'aime beaucoup cette expression-là. En même temps, les gens se sont aperçus que c'était trop. Mm-hmm. Et là, ils ont eu l'impression qu'il ne fallait pas les frustrer. Il ne fallait pas essayer de réveiller l'ogre en eux, parce que là, ils détruisaient tout dans la maison, dans leur école et tout. Et là, on a accepté un peu collectivement quelque chose qui est très important pour moi, d'empêcher de les frustrer. C'est-à-dire qu'ils sont devenus de plus en plus intolérants au conflit. Et tellement intolérant au conflit qu'ils ne supportent pas les mots, ils ne supportent pas les autres genres, les autres sexes, les autres couleurs de peau. Et ça devient hallucinant l'intolérance qu'ils ont parce qu'ils sont incapables de voir ou d'accepter que ce n'est pas leur interprétation du réel qui compte, mais le réel en soi. Ils sont toujours, et c'est on a beaucoup une génération qui souffre continuellement de ce qui est différent de lui parce qu'ils n'ont pas été suffisamment séparés ou frustrés.
Ou confrontés.
Alors, c'est très important d'expliquer ça pour moi, parce que l'intolérance, les jeunes sont trop inconfortables avec ce qui les écœure.
Oui. Mais comme les grands, mais on apprend à vivre avec. C'est ça l'histoire.
Mais c'est ça. C'est plus difficile quand vous êtes en développement puis que votre cerveau est en développement. Autres peuvent lutter, peuvent s'adapter. Mais dans un cerveau en développement, c'est difficile actuellement de concilier. C'est comme si tous les conflits qu'on avait à l'âge de 2, 3, 4 ans avec les enfants, ils se sont ensuite superposés à l'école primaire et puis catapultés inculquer à l'école secondaire. Alors, souvent, ils sont en souffrance, les gens qui sont inconfortables parce qu'on a employé tel ou tel mot, etc. Mmh. C'est là qu'il y a eu des excès du côté de la gauche communautarisme avec toutes sortes d'autres niveaux. Et on se retrouve dans une polarisation là, incroyable de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur des idées. Là, on pourrait être d'accord ou pas sur certaines choses. Il y a vraiment des conflits. Les gens rentrent maintenant, deviennent comme des ennemis et des conflits. Et c'est très, très important de comprendre que c'est affectivement que ça passe. C'est pas au niveau des idées. Donc, on a des groupes masculinistes d'un bord, hyper tolérants de l'autre. C'est très, 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 très disparate actuellement. C'est difficile de retrouver le point commun.
Si chacun refuse de se confronter avec l'autre, ça finit mal, cette histoire-là.
Puis y a-tu quelque chose de plus extraordinaire que de se pogner avec quelqu'un? Moi, j'adore ça!
Moi, mon activité préférée avec mon plus vieux, c'est l'obstination.
C'est l'argumentation. Ça donne la dopamine, ça donne la récompense et tout. On se sent vivant après ça. On se sent en mouvement dans cette connexion-là avec l'autre.
Docteur Chicoine, il faut se laisser, absolument. On a dépassé notre temps, mais je vous ai pas arrêté. Fait que c'est de ma faute parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Il y a des auditeurs qui se demandent, avez-vous une clinique? J'écoute, je sais pas, il doit avoir une liste d'attente. C'est-tu possible de vous consulter ou c'est difficile?
Non, c'est pas possible. Non. C'est pour ça que ça me permet de vous parler. J'ai une clinique pleine. Et ici, au CHU Sainte-Justine, moi, je suis des enfants adoptés, abandonnés, trafiqués. Donc, j'ai une clientèle d'enfants extrêmement vulnérables avec notre équipe. On est super heureux, puis c'est vraiment à ça que je cherche cliniquement. Mais j'ai toujours cru et pensé comme pédiatre qu'il fallait aussi intervenir, comme vous avez dit à madame tout à l'heure, en prévention, en promotion de la santé, en promotion de la cause des enfants. T'sais, les pédiatres, on travaille pour les enfants les plus vulnérables, mais ça nous empêche pas de penser à tous les enfants de la société.
Ben, merci pour votre temps. Puis d'abord, on va se reprendre un rendez-vous. Là,
au revoir.
Puis on se reprend bientôt. Merci d'avoir été là.
Bon temps à Québec.
Merci, au plaisir. Docteur Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine, professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal et qui met le doigt souvent sur des affaires.
Ouais, mais on va falloir y reparler parce que tu vois, on n'a plus le temps. Mais premièrement, j'aurais aimé ça savoir où sont les adolescents les plus heureux. Tu sais, j'ai plein de questions, mais surtout, le gars, il a ouvert une porte sur le masculinisme.
Oui.
J'aurais aimé ça lui demander la question, est-ce que vous voyez une différence avec les enfants d'immigration?
Oui.
Mais tu sais, il y a plein d'affaires.
Moi, je voulais parler de TDAH, mais là, arrête de parler, il faut s'en aller.
J'ai pas eu, c'était super intéressant, sa longue réponse.
Mais j'avais eu full de temps, Pat, j'aurais demandé à lui. Là. Il faut la pause, OK? Mais...
Ouellette, bravo. En direct. Radio. X.